of a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver comme toutes les semaines dans l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. John Lyndon à la présentation, Lionel Gaïma sur la production de cette émission. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Dans l'Amérique et vous, ce vendredi, nous parlons des relations, nous parlons des réseaux sociaux et leur usage par les hommes politiques, notamment les chefs d'État. Et parmi les questions qui occupent le centre de nos échanges aujourd'hui, il y a celle de savoir si les réseaux sociaux changent la donne dans la manière de communiquer des hommes politiques aujourd'hui et quels sont leurs effets, quels sont les effets des réseaux sociaux sur les médias traditionnels. Pour beaucoup d'observateurs, en effet, l'utilisation des médias sociaux a considérablement augmenté ces dernières années et bouleverse les médias traditionnels. Beaucoup d'hommes et de femmes politiques préfèrent utiliser les réseaux sociaux pour passer directement leurs messages. C'est notamment le cas ici aux États-Unis du président Donald Trump. Vos commentaires et réactions sont les bienvenus. Pour ce qui concerne votre pays ou d'autres exemples que vous voudriez bien partager sur Facebook et en direct ici au 001-202-205-2623, vous pouvez également suivre cette émission en direct sur voafrique.com. Pour nous accompagner dans cette émission, nous avons Julie Ohono, elle est directrice exécutive de Internet sans frontières, nous l'avons depuis Paris. Julie Ohono, bonsoir. Julie, bonsoir, vous nous écoutez?
Oui, très bien, vous m'entendez?
Je vous entends parfaitement, merci pour votre disponibilité. Vous sortez à peine du travail et vous avez accepté de participer à cette émission. Nous avons également Morgan Palmer, il est consultant et entrepreneur. Morgan, bonsoir.
Bonsoir, John.
Merci, vous aussi, on vous a pris à la dernière minute. On va aller du côté de Dakar, où nous avons également Samba Badji. Samba, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là, vous êtes journaliste. À tout seigneur, devrais-je dire, tout honneur, on va commencer par Julio Ono. Internet aujourd'hui, c'est devenu le moyen d'expression pour tout le monde, y compris pour les présidents.
Oui, bien sûr. Et je dirais que les présidents, finalement, les hommes et les femmes politiques se sont adaptés à l'outil Internet qui, on le sait maintenant tous aujourd'hui, est un outil qui fonctionne sur le principe de la décentralisation, c'est-à-dire que vous n'avez plus cette idée que l'information va venir d'une seule source et c'est généralement cette source sera au-dessus des autres. Donc en l'occurrence, un chef de l'État, c'est dans l'organisation étatique, c'est celui qui est au-dessus de tout le monde. Mais plutôt, vous aurez l'espace cybernétique est un espace où potentiellement tout le monde a une information, tout le monde a un avis et tout le monde peut l'exprimer et avoir de l'impact. Donc c'est pour ça que les hommes politiques en général et les chefs de l'État en particulier ont très vite dû s'habituer à également gouverner sur les réseaux sociaux et sur la toile en général. On se souviendra que un des pionniers en la matière d'ailleurs, et avant même qu'il ne devienne chef de l'État, était l'ancien président Barack Obama, qui, du temps de sa campagne déjà, avait fait usage beaucoup des réseaux sociaux pour faire campagne, mobiliser sa base, et ensuite avait entretenu cette relation-là une fois qu'il avait été élu et au courant de ses deux mandats. Cette pratique est aujourd'hui généralisée, on peut dire que beaucoup se sont inspirés de lui, y compris peut-être dans une certaine mesure l'actuel président, hein, beaucoup se sont inspirés de lui, et ce qui fait que de plus en plus de chefs d'État vont avoir leur page Facebook, vont avoir leur page Snapchat, vont avoir leur page, bref, une page sur les réseaux sociaux, leur compte Twitter, et même ça a impulsé un nouveau mouvement qu'on a appelé celui du mouvement ouvert, donc la gouvernance ouverte, qui fait que on gouverne aussi auprès de ces comment dire, des citoyens à travers
les réseaux sociaux.
Encore une fois, le président Barack Obama a été pionnier et est un exemple intéressant en la matière.
Alors, Samba Badji, vous êtes à Dakar au Sénégal, vous êtes en Afrique, donc, où on dit que le chef ne parle pas. Est-ce que, non seulement à Dakar, mais dans beaucoup d'autres pays africains, est-ce que les chefs d'État et les leaders politiques utilisent Internet, Facebook, Twitter?
Alors, il faut dire qu'ils ont mis du temps avant de s'y mettre, mais ils commencent à s'y mettre avec plus ou moins de succès en fonction des expériences. Il y a quelques années, très peu de chefs d'État africains étaient sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les chefs d'État, ou tout au moins les institutions, commencent à s'y mettre. Si je prends l'exemple du Sénégal, aujourd'hui, Macky Sall fait partie, je crois, des présidents africains qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux, Facebook et Twitter notamment. Paul Kagame, par exemple, est aussi un grand utilisateur des réseaux sociaux, de Twitter, qui parfois même sort du champ de la politique pour parler un peu de football sur son fil Twitter. Donc oui, il commence à s'y mettre, même si certains n'arrivent toujours pas à suivre le rythme, parce que si on va sur le fil Twitter d'un chef d'État comme Paul Biya, on se rend compte que bon, c'est vraiment une utilisation minimaliste, mais oui, les dirigeants africains commencent à s'y mettre avec des succès assez différents en fonction des personnes.
Voilà, donc au Cameroun, Paul Biya ne tweete pas beaucoup. En revanche, le président rwandais Paul Kagame est carrément sur toutes les plateformes. On va aller justement au Cameroun où nous a rejoint le Sosten Médard Lipot. Vous êtes conseiller politique et communication du MRC, un parti politique, et vous êtes également enseignant et chercheur. Pourquoi est-ce que le président camerounais ne tweete pas assez?
Mais pourquoi est-ce que le président camerounais ne tweete pas assez? C'est un homme d'une génération, du passé tout simplement. Il est octogénaire, bientôt nonagénaire, vous le savez très bien. Et même si quelque part, ces derniers temps, on a eu l'impression qu'il était fasciné par l'outil, il faut dire que l'outil Internet, il faut dire que dans un passé, très récent d'ailleurs, lui et ses collaborateurs ont dit que Internet était un outil de dépravation des mœurs. C'est la perception, c'est l'image qu'ils ont. Donc, sur ce plan-là, bien entendu, en réalité, il est possible de s'arrimer à la nouvelle donne, mais il essaie de faire avec quand même.
Voilà. Alors, Morgan Palmer, lorsqu'on tweete et qu'on a un leader politique, quel genre de message est-ce qu'on doit tweeter? Parce qu'ici, aux États-Unis, l'opinion se plaint beaucoup des tweets de Donald Trump, qui parfois ne tiennent pas compte des normes et exigences diplomatiques.
Oui, le problème, c'est qu'Internet a, on va dire, révolutionné les accès de mode, les accès à la parole. Et donc aujourd'hui, c'est aussi le lieu où foisonnent toutes sortes de rumeurs assassines. Les politiques sont obligés de faire preuve de réactivité, parce que faire de la politique, c'est être dans la séduction permanente. Alors si on reste dans cette culture du chef qui ne parle pas, ça veut dire qu'on donne la possibilité aux gens de répandre des rumeurs qui sont parfois négatives sur le compte des politiques. Donc, qu'est-ce que les politiques doivent dire? Mais je crois qu'en priorité, doivent donner l'essentiel de leur actualité, très important, hein, pour que ce ne soit pas à d'autres de le faire. Et aujourd'hui, nous sommes dans la culture de l'instantanéité. hein, parce que Internet a révolutionné les modes de consommation de notre société. Et ce que je remarque quand même, c'est que les présidents font partie de la société, donc ils ne peuvent pas rester en marge de ce mouvement.
Alors, Julie Ohana, est-ce que les femmes sont dans ce mouvement, les femmes leaders, est-ce que vous connaissez, vous, des femmes qui tweetent des leaders politiques? Julie?
Qui, alors, peut-être pas elles directement, pas nécessairement elles-mêmes directement tweet, mais en tout cas, elles ont des profils. Alors, je penserais, j'essaie de réfléchir. Je sais que la chef de l'État, l'ancienne chef de l'État du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, avait quand même une présence, pas directe, mais en tout cas, elle avait, ses équipes communiquaient sur Internet. Alors, c'est une question difficile parce qu'en même temps, quand vous parlez de chefs d'État et de femmes, il y en a tellement peu que
tout à fait,
que finalement,
tout au moins des leaders politiques.
Malheureusement. Mais les femmes politiques, globalement, sont très, très actives. Je pense notamment en France, où je vis actuellement, les femmes comme, je vais citer une députée du parti de Jean-Luc Mélenchon qui s'appelle Clémentine Autain. C'est une députée qui est très active, qui était chez les communistes avant et qui est maintenant dans la France insoumise, qui est très active sur les réseaux sociaux, qui est très visible. Je vais penser aussi à Eva Joly, qui est la députée européenne Les Verts, qui est très connue en Afrique parce qu'elle a participé aux révélations dans les années 90 sur l'affaire Elf et qui avait commencé à ouvrir le secret sur la France-Afrique. Donc oui, cette députée, elle tweet énormément également. Je pense à la chef de l'État allemande qui, pendant la campagne, a aussi fait campagne sur les réseaux sociaux. Alors, pas elle-même directement, c'est-à-dire que, contrairement à un chef de l'État comme Barack Obama, qui pouvait parfois être très direct, et comme Donald Trump d'ailleurs, qui lui-même va prendre son portable, dit-on, et signer Donald Trump, ou en tout cas B.O., Barack Obama B.O., lorsque c'est eux-mêmes qui tweetaient. Contrairement à ces deux-là, à ces deux exemples, bon, là ce sont des équipes qui s'occupent de son image et de sa communication, notamment en Internet, mais c'est devenu un outil, y compris pour les femmes politiques. Et d'ailleurs, il y a de nombreuses entreprises qui sont spécialisées là-dedans, dans la communication politique digitale, parce que c'est, enfin, vous ne pouvez pas vous faire l'économie aujourd'hui en tant qu'homme ou femme politique de communiquer sur un réseau où il y a la moitié de l'humanité qui se trouve, donc 3,5 milliards environ, 3-4 milliards de personnes. Donc vous êtes obligé, pour parler à vos électeurs, vous êtes obligé d'y être. Maintenant, il y a des manières de le faire. Il y en a qui, comme cela a été dit très justement par mon collègue, il y a certains chefs de l'État qui le font très bien, qui ont compris les codes, qui n'ont pas nécessairement besoin de tweeter 10 000 fois dans la journée pour se faire comprendre. Et puis, on a d'autres, malheureusement, qui pensent que c'est encore comme avant, que la communication top-down, c'est-à-dire du sommet vers la base, c'est toujours le principe sur Internet, alors que non, Internet a complètement cassé ces codes-là. Il faut s'y adapter. Il y a des manières de
justement communiquer. Justement, Samba Badji, ça m'amène à vous poser la question de l'effet de cette utilisation des réseaux sociaux par les leaders politiques sur les médias traditionnels. Aujourd'hui, le scoop ne vient plus forcément du journal célèbre de la place.
Oui, peut-être juste la parenthèse ajoutée pour les politiques africaines. L'ancienne présidente de l'Union, de la Commission de l'Union africaine, de la Mini Zuma, est très active sur Twitter. Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux... moi, j'aime bien dire aujourd'hui que nous, les journalistes, nous n'avons plus l'exclusivité de la diffusion de l'information. Nous n'avons plus cette exclusivité. Nous n'avons plus, au-delà de l'exclusivité, nous n'avons plus le monopole de la diffusion de l'information. Alors, c'est pourquoi pour les journalistes aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout en étant une plateforme de diffusion de l'information, sont aussi une source d'information. Nous y allons. Nous sommes obligés de faire de la veille sur les réseaux sociaux pour accéder à certaines informations que des leaders, qu'ils soient politiques ou des hommes qui sont dans les affaires ou autres, qui préfèrent aujourd'hui donner des informations exclusives sur les réseaux sociaux que de les donner à des journalistes. Je me rappelle par exemple que Hillary Clinton a annoncé sa candidature sur Twitter en tweetant le logo de sa campagne et tout de suite a alerté tous les médias. Elle est partie sur Twitter pour le faire. Ça veut dire aujourd'hui que les hommes politiques aujourd'hui ont la possibilité de parler directement à l'audience sans passer par les médias. Eh bien, nous, les médias, aujourd'hui, nous sommes obligés de faire de la veille sur les réseaux sociaux. Et je pense que, d'une certaine manière, ça nous enrichit aussi et ça nous oblige à revoir de fond en comble notre façon de travailler en tant que journaliste aussi.
À Sosthène Médard-Lipote, je pose la question à l'enseignant et à l'homme politique, ou tout au moins au conseiller politique que vous êtes. Comment amener plus de leaders politiques à s'intéresser aux réseaux sociaux, à ne pas forcément les prendre comme un outil qui va exposer leur vie? Quel conseil est-ce que vous vous donnez à votre chef de parti?
Oui, vous poserez une question pertinente. C'est la problématique, bien entendu, de l'usage ou de l'utilisation des réseaux sociaux. Il faut, le premier conseil, c'est que les réseaux sociaux, l'exemple Facebook ou Twitter et consorts, en fait, ont mis à jour de nouveaux paradigmes en matière de communication. Aujourd'hui, il est établi qu'il existe une quinzaine de nouveaux paradigmes en communication. Une quinzaine de nouveaux paradigmes. Et que, quelque part, si un leader politique ou un leader d'opinion, voire un guide d'opinion, en fait, veut s'absoudre de l'utilisation, de l'usage des réseaux sociaux, il est appelé lui-même à disparaître. Il y a un problème, c'est que qui se pose même à l'intérieur de notre politique, le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, là quelque part, dont l'idéologie est quand même le social-libéralisme, qui est supposé être pour. Même à l'intérieur d'un parti politique comme celui-là, bien entendu, on peut trouver des gens ou des personnes qui ne saisissent pas encore très bien, bien entendu,
l'importance
d'intervenir. De diffuser un message sur les réseaux sociaux.
Voilà.
Parce qu'ils ont peur de la rétroaction. Vous savez que là-bas, un interlocuteur, tout à l'heure, un invité dans l'émission, a dit que c'était le média de l'instantanéité. C'est aussi le média de l'immédiateté. Et non seulement cela, c'est un média généraliste. Et non seulement cela, chaque utilisateur sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et j'en passe, bien entendu, est appelé d'un point de vue scientifique aussi. Ça peut paraître abusif, self-journalist. Donc il s'appelle du self-journalism.
Alors,
qui est amateur, mais qui, quelque part, néanmoins, recèle, bien entendu, en fait, de vérité ou de contre-vérité.
Merci beaucoup, Sosthène. Il faut souligner également que parmi les leaders, ou tout au moins les hommes politiques africains qui sont actifs dans les réseaux sociaux, il me semble qu'en Côte d'Ivoire, c'est le cas de Guillaume Soro. On va prendre une petite pause et lire les réactions qui nous sont parvenues sur Facebook. Et après, chers invités, on va revenir avec vous pour clore cette émission, ou tout au moins aborder les derniers aspects de cette émission. Voilà, vous êtes sur VO Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous, nous parlons de l'usage des réseaux sociaux par les hommes politiques. On a reçu ces quelques réactions de Facebook, celle de Osana Jimrangar Théodoum qui dit « Aujourd'hui le monde évolue et la mondialisation a fait que tout a changé. Les réseaux sociaux véhiculent très vite le message, c'est pourquoi les hommes politiques préfèrent se faire atteindre, en fait, préfèrent utiliser dans ce moyen. » On a cette réaction d'Ali Abdelkader Fouladi qui dit « Le monde aujourd'hui est devenu numérique, les gens ne peuvent suivre les actualités en temps réel depuis leur téléphone ou leur ordinateur. » Eric Kazi Keyap, lui, nous dit « Le président américain Donald Trump n'est pas plus fort que Kabila. » Ce dernier le dépasse en tout pour tout, car personne sur cette planète n'ose trouver une solution pour les Congolais. Évidemment, on tire vers la politique. Là, on a cette réaction de Louis Mutanga qui dit « Les réseaux sociaux sont beaucoup utilisés actuellement que nos médias traditionnels à cause des raisons suivantes. Premièrement, ils donnent accès à un grand public. Ils donnent accès à un grand nombre de personnes. » Alors, cela me pousse à poser la question à Julie Ohono, puisque vous êtes d'Internet sans frontières. On a souvent entendu parler des suspensions ou de coupures d'Internet. Est-ce que vous pensez qu'on va aller dans une logique où de plus en plus de personnes seront coupées d'Internet, ou plus en plus d'hommes politiques vont couper Internet, ou alors ils vont élargir et donner la liberté à tout le monde?
Malheureusement, c'est ça les paradoxes de ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire la présence et la politisation du réseau Internet. Pourquoi ? Parce que d'un côté, effectivement, on a un outil qui est très puissant, très important, qui permet aux politiques de renouveler le contrat social quelque part avec les populations. Mais d'un autre côté, on a aussi les politiques qui ont peur de cet outil et de la liberté que permet cet outil-là. Et certains États ne sont pas habitués. Donc ce qu'ils font, quand ils se rendent compte qu'effectivement, on peut tout dire sur Internet, on peut tout faire circuler, y compris les images de la police en train de taper des manifestants, et que ça fait le tour du monde, eh ben, le réflexe qu'ils ont, c'est de couper Internet. Mais c'est le réflexe, excusez-moi, mais c'est le réflexe le plus stupide, parce que ça ne fait qu'empirer le problème, ça fait que tout le monde parle encore plus de ce que ce gouvernement-là voulait cacher, et surtout, ça fait perdre de l'argent, parce que Internet, c'est pas seulement un outil de communication, c'est aussi un outil de création de valeur. On dit que demain, ce sera l'or, ce sera le pétrole de la quatrième révolution industrielle, donc la révolution digitale. Donc, se couper d'Internet aujourd'hui, c'est s'amputer de gains économiques très importants. Et mais au-delà de ça, sur la politisation, et je termine là-dessus, au-delà de ça, il y a un autre danger que nous voyons Internet sans frontières, c'est que c'est bien que ces hommes politiques soient présents sur Internet et sur les réseaux sociaux, mais attention à la propagande. On parle de plus en plus, d'une part, d'hommes et de femmes politiques qui, en tant que candidats, qui vont acheter de la publicité sur Facebook et Twitter, par exemple, pour cibler certains de leurs électeurs, et de cette manière-là influencer plus ou moins certaines élections, je pense notamment aux États-Unis. Mais au-delà de ça, on peut aussi craindre que, oui, effectivement, avec la notion de fake news, que certains gouvernements et certains hommes politiques utilisent la parole sur les réseaux sociaux pour encore plus réprimer cette parole qui devait normalement être libre sur un espace comme Internet. Donc attention à la politisation de l'outil.
Merci Julie. Morgan Palmer, on a vu ici aux États-Unis et même en France des gens gagner des élections grâce aux réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que cela est possible en Afrique? Un chef d'État peut-il gagner une élection? Je veux dire, un homme politique peut-il gagner une élection grâce aux réseaux sociaux, en quelques mots?
Bien sûr que je vous ai parlé tout à l'heure d'une révolution des modes de fonctionnement. C'est une révolution civilisationnelle. On ne peut pas arrêter ce phénomène. C'est un peu comme quand on est passé du tam-tam en Afrique pour annoncer des nouvelles au téléphone, un peu comme si les gens freinaient de deux pieds pour dire « bon, non, on ne va pas utiliser le téléphone ». Non, c'est obligé. Les futurs chefs d'État africains
doivent utiliser
d'abord par le fait d'Internet, parce que en plus, aujourd'hui, il y a une espèce de rupture avec les médias traditionnels qui sont réputés dans la plupart des pays d'être les caisses de résonance des pouvoirs en place. Et voilà. Donc aujourd'hui, les gens ne vont plus chercher l'information à proprement parler dans les médias classiques. Les informations, ils vont les chercher sur Internet.
Merci
beaucoup.
C'est quasiment
être dans une démarche irresponsable.
Merci
beaucoup. C'est le jour pour un politique de ne pas occuper ces espaces-là.
Merci beaucoup, Morgan. Samba Abadi, le mot de la fin pour vous.
Oui, non, je veux dire, je ne sais pas si Internet permettra d'élire un homme politique ou un président en Afrique, mais je sais que Internet aujourd'hui joue beaucoup un grand rôle dans la mobilisation des opinions. Je me rappelle l'élection présidentielle de 2012 au Sénégal.
En quelques mots, s'il vous plaît.
Ça a joué un très grand rôle. La dernière révolution au Burkina Faso, Internet et les réseaux sociaux ont joué un grand rôle.
Voilà.
Je pense que oui, les réseaux sociaux vont continuer à jouer un grand rôle dans la mobilisation des citoyens.
Merci Samba. Sosten Médard, en quelques secondes, le mot de la fin pour vous.
Oui, on ne peut ne pas communiquer. C'est un aphorisme très connu en sciences de la communication. Et la portabilité aujourd'hui de l'Internet est
gaucher des réseaux sociaux fait qu'aujourd'hui,
voilà,
c'est incontournable.
Merci beaucoup. C'est incontournable, donc. C'est
inéluctable.
Merci beaucoup, Médard. C'est ici que s'achève cette émission de l'Amérique et vous, qui était donc consacrée à l'usage des réseaux sociaux par les leaders politiques. Lionel Gaïma assurait la production de cette émission. Et puis, Cédric Caesar était à la mise en onde. John Lyndon, je vous ai présenté cette émission. Merci, je vous laisse en compagnie d'Abraham Andia pour les infos.